Ici, nous sommes en pleine zone champêtre et périphérique. Précisément, nous sommes à Piégut-Pluviers.
Donc Piégut se situe donc au nord du département de la Dordogne, dans le Périgord vert, et aux confins de trois départements, donc la Haute-Vienne, la Charente et donc évidemment la Dordogne, au centre de trois villes, Limoges, Angoulême et Périgueux, qui se trouvent à peu près entre 45 et 1 heure de route chacune de Piégut.
Avant, jadis, il y eut un tramway à Piégut-Pluviers. Mais aujourd'hui, peu s'en souviennent. Eh bien, justement, voici l'histoire du tramway de Piégut-Pluviers.
Voilà.
L'épopée du tramway de Piégut-Pluviers.
Première partie.
Genèse.
Un train à Piégut.
Mais qu'est-ce
donc? Non, je n'ai jamais vu une gare ou quoi que ce soit.
La ligne a été faite en 1912. On appelait ça les chemins de fer départementaux, oui. Tramway de la Dordogne, voilà. C'était un chemin de fer à voie étroite qui suivait le bord de la route. Il n'y avait pas de passage à niveau, il n'y avait pas de... Quand ça traversait la route, eh ben ça traversait la route au hasard. Alors c'était, il y avait des wagons, c'était en bois évidemment. Et il y avait des wagons avec, comme ce qu'on voit maintenant les présidents de la République aux États-Unis qui se trimballent avec dans le chemin de fer. Il y avait un balcon à l'arrière, comme ça, en plein air.
En quelle année vous êtes né, vous ?
En 1926.
Ah, donc effectivement, vous l'avez connu, ce petit train ?
Ben oui, j'avais 9 ans. Oui. Oui, je me souviens très bien. Alors, il y avait des petites stations, par exemple, vous pouvez en voir une facilement à Farja, sur la route en allant à Abja, là. Et à Farja, il y a des petites stations qui étaient où il y avait juste un toit et un banc pour s'asseoir, pour attendre le train, à l'abri quand même. On appelait ça des arrêts facultatifs. C'était pas une gare. Celui de Farja est encore en état.
Vous vous souvenez combien il y en avait par jour ou c'était un par semaine?
Ah, je sais. Non, je crois que c'était que un le matin. Je dois avoir un bouquin quelque part. Je vais aller le chercher. C'était les horaires. Un petit bouquin que j'ai écrit avec une amie. Et vous allez voir, ça c'est le marché. Ah voilà, le petit train à Piégut, vous voyez. Ah oui, il y a du bois, on charge du bois là. Oui, il y a un wagon qui est plein de bois. Et alors voilà les horaires. De janvier 1913. Mais il y en a plusieurs, alors, je vois. Il y en a un à 10h, après il y en a un à 15h, et après un à 18h.
Il y en a eu beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein. Beaucoup plus d'offres de transport qu'aujourd'hui.
Ben oui, beaucoup plus d'offres de transport qu'aujourd'hui. Ah oui, oui, puisque vous voyez, il y a trois. Un, deux, trois. Il y a 5 départs dans la journée. Alors, vous voyez le nombre extraordinaire d'arrêts qu'il y avait. Oui. Ça ne pouvait pas aller vite parce qu'il fallait s'arrêter à tous ces arrêts-là. Ça desservait beaucoup de villages. Il y a 25 stations. Champs-Romain, 2 fois Champs-Romain, 3 arrêts à Saint-Saul-la-Coussière, Le Verdoyer, Les Gravoux, Abja. Bourg, Abja, Gare, Farja, donc le petit station dont j'ai parlé tout à l'heure, Farja, Touvent, Piégut, 2 stations, un Piégut à une station Bourg et une station Gare. Après Pluviers, Le Clusot, Saint-Barthélemy, Chaniers, Chantelouve et Saint-Mathieu, voilà.
Le tramway de Piégut dérive d'un rêve. Un rêve qui paraît fou, celui d'égalité. fou, mais assez séduisant pour qu'il devienne l'un des piliers de la devise, ou vitrine, de la jeune nation France.
Liberté,
égalité,
fraternité.
En ce temps, la plupart des citoyens éduqués croyant la modernité et ses technicités. D'Amérique, se dégageait son fumet de prospérité. Assurément, elles apporteront des solutions idéales aux maux de la société tels la pauvreté ou l'inégalité. Le tramway que les mémoires nomment...
On appelait ça le petit ciréjol.
On parle de notre petit train. Notre petit train.
Taco du Périgord.
Oui, ce tramway de Piégut dérive d'un idéal qu'a voulu appliquer Charles de Freycinet. Ministre des Travaux publics, il lança en 1878 un plan visant à offrir à chaque Français l'accès au chemin de fer. À chaque Français l'accès au chemin de fer. Freycinet rêvait de relier au rail toutes les sous-préfectures et un maximum de chefs-lieux de canton. Par ricochet, la jeune République se propagerait dans des zones parfois hostiles aux nouvelles idées tant politiques que technologiques. Elle les désenclaverait tout en améliorant la stratégie militaire, le commerce, l'économie.
Oui, oui, il y a eu effectivement tout un réseau routier qui s'est mis en place.
Donc réseau routier, réseau ferroviaire qui se met en place à partir de la moitié du 19e siècle.
Oui, la seconde moitié, oui.
Mais d'après vous, ce désir de route, c'est pourquoi en fait ce désir des routes et du train?
Eh ben, c'était pour améliorer la circulation des hommes et des marchandises. Oui, que c'était un nouvel ordre dans les transports qui se mettaient en place. Parce que dans les zones isolées ou les zones de montagne, les gens en fait transportaient à dos d'homme quoi, ce qu'ils avaient à vendre ou pour se rendre au marché quoi. Et donc ils étaient fortement tributaires de ce qu'ils pouvaient transporter et rapporter du marché à partir du moment où ils étaient à pied. Si les charrettes peuvent pas passer sur des routes, il reste plus grand chose pour transporter les marchandises ou les hommes, quoi. C'est à pied ou avec des mules, quoi, chargées. Et donc ces routes et le chemin de fer a permis justement de le transport de ces choses-là, quoi. Il y a eu aussi des politiques au niveau des gouvernements en France de booster un peu ce réseau de routes dans la mesure où je pense qu'il y avait des attentes en termes de retombées sur le plan économique.
Entre la fin du 19e siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, un dense réseau ferré émerge. Chaque localité, plus ou moins, s'était mise à son tour à rêver voie ferrée. Tous s'accordaient sur la nécessité d'élargir le réseau, mais tous préféraient que la desserte ferroviaire s'installe chez eux, précisément. Chez eux, c'était vraiment mieux que chez les voisins. Et bien généralement, lorsqu'un village était retenu, c'était grâce au travail acharné d'un parlementaire local dévoué. Mais pour Piégut, la situation était différente. Car choisir Piégut-Pluviers pour y ancrer une gare coulait de source. Car jadis, il n'y a pas si longtemps, Piégut-Pluviers était une petite ville relativement prospère et affairée.
Et Piégut était un pôle important à l'époque parce qu'il y avait un très gros marché, très important, de petits cochons et de toutes sortes de choses de la campagne. Donc, et du bois, on exportait aussi beaucoup de bois. Donc on réclamait à la fois pour les voyageurs et à la fois pour transporter les n'importe quoi. Les communes réclamaient un moyen de transport.
Le marché, il était là, il est aussi là, il est important. Mais là, les mercredis, c'était plein. Puis alors, il y avait quand même sur le champ de foire, il y avait les petits cochons, il y avait les vaches, il y avait les chevaux, il y avait beaucoup de choses. C'était...
Et lorsqu'il fut l'heure de statuer sur le deuxième réseau, le choix de cette bourgade ne fit pas un pli. Voici ce que nous pouvons lire dans le journal des transports du 24 décembre 1881.
L'ex-directeur des chemins de fer et sous-secrétaire d'État aux travaux publics, M. Léguillet, s'est laissé aller à de vastes perspectives d'avenir lors de l'inauguration du chemin de fer de Périgueux à Ribérac. Il veut poursuivre le plan Fraissiné à outrance. En quittant Ribérac, M. Léguillet s'est rendu à Nontron où il a prononcé un nouveau discours. Et il a conclu en promettant pour 1884 l'inauguration de la ligne de Nontron à Sarlat et de 3 chemins de fer vicinaux de Nontron à Limoges par Piégut et Oradour et de Nontron à Périgueux par Brantôme ainsi que de Nontron à Ribérac par Mareuil.
Mais... entre le désir et la réalité, de l'eau coula sous les ponts. La ligne raccorderait Saint-Pardoux, en Dordogne, à Saint-Mathieu, en Haute-Vienne, en passant par Piégut. Mais pour le tracé, les villes de Nontron et Augignac se retrouvèrent en concurrence avec Champ-Romain, Saint-Saud, Abja. Et ce sont ces dernières qui l'emportèrent. Et tout le monde se rappelle pourquoi.
Oui, oui, il devait y avoir des rapports de force pour obtenir le passage du train dans sa commune, quoi. Et je sais que, par exemple, si vous allez sur Saint-Pardoux, il y a une ligne, là, pour aller vers la Haute-Vienne qui était ardemment demandé par le député de l'époque du coin, je crois que c'était Cirejol, quelque chose comme ça. Et donc ça, en lien avec justement le développement du commerce de la viande limousine, quoi. Et donc, il y en a qui se sont battus plus que d'autres, certainement, quoi.
On appelait ça le petit Cirejol, parce qu'on disait que c'était un député qui était originaire de Saint-Pardoux, qui avait été à l'origine... à la base de la fabrication et de la mise en route de ce petit train.
Et puis bien sûr, ça a été pour M. Cirejol l'occasion, bien sûr, de faire plaisir aux élus, puisqu'il s'est élu par les grands électeurs, quoi.
Finalement, le projet fut acté. Revenons au journal des transports du 20 août 1903.
Il a été décidé pour le prolongement de Saint-Pardoux sur la Haute-Vienne d'écarter définitivement tout tracé par Nontron et d'adopter la direction par Champ-Romain près Saint-Saud.
Deuxième partie.
Vie et mort. La suite ? Rendez-vous sur https://fragmentschampetreetperiphérique.lepodcast.fr. À bientôt.